Chapitre 12. La bourrasque. Les semaines les plus sombres de l'année étaient venues. Tout le jour et toute la nuit, les nuages de grande pluie passaient, se succédant presque sans intervalle. La mer avait mis en eux la vie et la nourriture pour des milliards d'épis et de fleurs et d'arbres et d'hommes, pour plus de plantes et d'êtres vivants qu'il n'y en avait sur la terre. Elle avait commandé au vent. Distribue les forces, et ce qu'il y a de trop reviendra dans l'abîme pour en sortir de nouveau. Et le vent mouillait les pays du Nord. Toute la Belgique et les Flandres françaises et la Hollande et les provinces basses de l'Allemagne eurent de la peine à rentrer les dernières récoltes et virent les charrettes embourbées et les rouliers jurant, et aussi des jours où les hommes de la campagne durent demeurer enfermés, attendant l'éclaircie qui ne venait pas. Tristes heures, dangereuses pour ceux qui ont au cœur un rêve malsain. Avant la fin de la première quinzaine de novembre, M. Valmery avait fait arracher l'énorme quantité de betteraves à sucre, nourries et mûries sur 50 hectares de terre. Les grands chariots avaient porté toute la récolte aux usines. Alors le fermier avait prescrit à Hellman de reprendre les labours, et malgré le mauvais temps, tous les harnais de la ferme passaient 10 heures dehors, et la terre, détrempée, luisait derrière eux, lissée par le versoir de fer. Les hommes se couvraient les épaules avec de vieilles vestes ou des sacs à farine ou des limousines. La pluie promenait ses fontaines noires de l'est à l'ouest, du nord au sud, et les bêtes elles-mêmes avaient les paupières rouges à cause du fouettement répété de l'eau. Le vent secouait les corneilles au vol. L'herbe sifflait au ras des mottes. Quelquefois, les laboureurs rentraient, ne pouvant tenir sous l'averse. Et s'il arrivait qu'un seul d'entre eux restât dans la plaine, c'était toujours Gilbert Cloquet, auquel on avait confié une charrue nouvelle, que les trois couples de grands bœufs blancs promenaient, la corne basse, et soufflant en mesure sur leurs jarrets tendus. C'est ainsi que le vendredi 16 novembre, il fallut revenir en hâte au pain fendu dès 10 heures du matin. Le ciel, tendu d'un seul nuage bleu d'ardoise, sans fissure, et qui semblait immobile, laissait couler depuis l'aube une pluie pénétrante, serrée, égale, qui feutrait le poil des bêtes et le tordait en épis, entre lesquels, au contact de l'eau et du vent, la peau rose des flancs frémissait. « Les bêtes ne tirent plus, » dit Hellman. « Elles seraient capables d'être malades. Les hommes, il faut rentrer. » Et, voyant que Gilbert continuait son labour, il cria. « L'ordre est pour tout le monde, pour les Nivernais comme pour les gars des Flandres. » Gilbert n'eut pas l'air d'entendre. Les 6 bœufs sous l'averse continuèrent de tirer. Ils s'éloignèrent, enveloppés par la brume de leur souffle et par la vapeur qui se levait de leur dos. Le bouvier, en arrière, semblait plus grand que de coutume, dans l'auréole blonde de son attelage en sueur. « Crève donc, si tu veux, Nivernais, mais si un de tes bœufs est malade, tu paieras les frais. » Toutes les charrues, moins une, reprirent le chemin de la ferme, se suivant l'une l'autre. Gilbert demeura seul dans la plaine immense. La tache pâle des 6 bœufs voyageait au ras du sol, dans la pluie, sous le nuage bas. Les enfants des villages, qui regardaient de loin, à travers les vitres, disaient « Qu'est-ce que c'est là-bas, qui roule et qui est blanc ?» Gilbert n'avait pas obéi parce qu'Hellman lui était devenu odieux, parce que la passion s'était emparée du bouvier et le rendait fou. Il ne dormait plus. Il se prenait de querelles avec les domestiques pour les causes les plus futiles, surtout avec ceux qui lui semblaient être bien vus de Madame Hellman. Il ne saluait plus le contremaître, il ne lui répondait plus. Le flegmatique Hellman tolérait cette humeur et s'en inquiétait même assez peu, sachant que l'autorité est difficile à exercer dans les fermes où toujours les passants se mêlent aux ouvriers du pays. Même, il excusait Gilbert. « C'est un ancien, » disait-il. « Peut-être qu'il a rapporté de chez lui des peines qu'on ne sait pas. Et puis, il est fort. » La force lui plaisait comme la plus belle chose qu'il connût. Non, ce n'était pas le chagrin rapporté de chez lui qui tournait la tête à Gilbert. C'était le voisinage de cette belle jeunesse rencontrée dans la ferme et l'éloignement des choses familières qui retiennent l'esprit tenté et la chair qui faiblit. Comme ils étaient loin, tous les témoins de la vie honnête, tous ceux qui auraient pu se moquer, reprendre, conseiller. Plus rien ne rappelait la mère cloquée, ni l'enfance enveloppée dans son regard et protégée par lui, ni les années d'amour, ni la longue période où Gilbert était resté fidèle à la maison, au jardin, au bois du lit, à la cuillée d'étain et au souvenir de la mort. Étienne Justamont n'avait pas écrit. Les nouvelles de Michel n'étaient pas venues. Toutes les habitudes avaient été rompues, camaraderie, causerie, travail du bois, décor de la forêt et des herbages. Et dans le vide, le mauvais désir avait grandi. Il était le maître à présent de cet homme presque vieux. Pas un mot ne l'encourageait, pas un regard. Gilbert avait bien vu que Madame Hellemans se tenait sur ses gardes, évitait de lui parler, de le rencontrer. Il en voulait au mari, à l'obstacle, au chef. Une jalousie insensée lui rendait odieux les ordres, la surveillance, la présence d'Hellemans. Parfois, il aurait voulu qu'une roue de chariot passât sur le corps de ce géant tranquille et jeune. Il souhaitait de le voir frappé par un cheval ou écrasé par un sac de grains tombé d'un grenier ou qu'une échelle se rompît sous les pieds du contremaître. Si l'homme disparaissait, la femme deviendrait moins farouche, elle serait plus faible et moins bien gardée. Gilbert sentait que des idées voisines du crime le frôlaient. Quelquefois, il se prenait d'horreur pour lui-même. Il apercevait sa folie. Il se rendait compte que l'âge était passé où il pouvait plaire à une femme. Et alors, le désespoir le saisissait. Pourquoi vivre? Quelle raison de travailler quand personne ne fait seulement attention à moi? Quand personne ne m'aimera plus jamais? Ses camarades disaient « Qu'a-t-il encore ?» Il ne parlait à personne. Il se relevait le matin sans avoir dormi, se demandant s'il n'allait pas se faire disparaître. Puis, une femme descendait le perron de la ferme, une voix appelait la servante, une main écartait le rideau de la grande salle, et l'ardente convoitise se rallumait dans les yeux du bouvier, et la fièvre dans son sang, et il avait ce plissement des paupières et ce tremblement furtif d'un chat qui guette un oiseau proche. Comme il avait en peu de temps changé. Où était-elle son idée de justice? À vrai dire, jamais il n'avait songé à l'étendre au-delà des questions d'intérêt. Il ne raisonnait point d'ailleurs, il aimait. La nouveauté de la tentation avait vaincu tout de suite cet être abandonné. Gilbert, labourant dans la tempête de pluie, croyait voir devant lui, tant sa folie était souveraine, au-dessus du guéret que ses bœufs allaient remuer, la femme grande et rose et coiffée en cheveux comme une dame, et ses yeux calmes qui avaient eu pitié de lui, hélas, les premiers jours. Il la voyait et il lui parlait tout haut, si bien que les bœufs, n'entendant plus leur nom, s'étonnaient et perdaient de leur courage. À une heure, le bouvier cependant détela ses bêtes et il revint à son tour. Quand il se fut occupé de ses bœufs et qu'il les eut attachés devant leur mangeoire pleine, il pensa à changer de linge et de vêtements. Comme il n'avait que deux habits pour toute garde-robe, il dut mettre sa veste à boutons de corne, son chapeau de feutre à large bord, et, ses sabots étant trempés, il mit ses bottes qu'il ne chaussait que le dimanche. Il rejoignit alors ses compagnons. Ceux-ci travaillaient dans la grange couverte qui était bâtie juste en face des bâtiments d'habitation, de l'autre côté de la cour, et dans les magasins qui s'élevaient encore au-delà et qui formaient une troisième ligne de construction. Hellemans avait donné l'ordre de nettoyer et de graisser les machines agricoles et les chariots. Les domestiques, mécontents, murmuraient, disant qu'on leur faisait faire la besogne du charron. Ils flânaient, s'interpellaient l'un l'autre et s'excitaient à quitter le travail, parlant assez haut pour être entendus du contremaître qui inspectait les étables. Comme cela ne manque guère, quand il y en a plusieurs qui cherchent à ne pas travailler, deux des hommes se prirent de querelle, dans la grange où Gilbert s'était mise à remuer et à réempiler des madriers. La querelle était à moitié sérieuse, et les hommes y voyaient, l'un et l'autre, un moyen de boire une bouteille de bière pour sceller la réconciliation aux frais de M. Valméry. Ils se tenaient à bras le corps. Gilbert intervint. « Assez, dit-il. Gatien, tu te feras du mal. Tu es le plus fort, faut pas être lâche. » Le plus fort. Le petit Vallon, Victor, devenu rouge comme une tuile, serra Gatien à l'étouffer et le jeta dans la poussière de la grange contre une roue du chariot démonté. Il y eut un cri. Helman entra par une porte de côté, jura par habitude, sépara les combattants. Mais, comme il aimait secrètement le spectacle des luttes et des jeux de force, il dit « Joli tout de même, petit Vallon du diable. Il en rosserait deux à la fois, parole !» Victor, essoufflé, couvert de poussière, remontait la ceinture de cuir qui tenait son pantalon, tournait lentement sa tête carrée où luisaient des yeux étroits, bridés, jaunes et injectés de sang, comme ceux d'un taureau. Il était debout sur le sol dégagé, entre la caisse du chariot démonté et la haute pile de madriers sur laquelle Gilbert était debout. Cinq ou six hommes venus des étables, de la forge, des magasins, l'observaient en riant. Gatien haussait les épaules et refaisait le nœud de sa cravate rouge. L'averse continuait dehors. La pluie tombait en murailles grises le long du hangar qui était ouvert dans le sens de la longueur et que fermait, du côté de la cour, une cloison double en briques. Elle faisait un bruit de ruisseau. Le contremaître avait envie de s'offrir une distraction. L'odeur âcre de la poussière remuée excitait ses nerfs. « Je parie pour Victor, » reprit-il. « Rabelais, le petit Wallon. Première force. »« Qu'est-ce que vous pariez ?» dit le forgeron dans un coin. Une voix près de lui, celle d'un petit berger qui se penchait en dehors, riposta. « Tiens, voilà Madame Helman qui vient. Celui qui gagne embrasse la patronne. »« C'est cela !» dirent de grosses voix amusées. « Qui est-ce qui tient le pari ?» Helman ne dit rien. Il consentait, indulgent, comme toute la campagne, à ses familiarités consenties en public. Il avait vu venir sa femme, lui aussi. Elle venait, courant, sautant d'une pierre sur l'autre, chaussée de sabots à brides et la tête couverte d'un châle en tricot gris qu'elle mettait le matin dans les grands froids pour aller surveiller la laiterie. Quand elle entra sous le vaste toit, deux hommes arrivèrent encore, des écuries et des greniers, comme des pigeons qui se laissent tomber du toit, et Victor lui ayant dit « Patronne, celui qui sera vainqueur à la lutte vous embrassera. » Elle leva les épaules, à la manière des mères qui jugent qu'il y a un grain de folie dans les demandes de leurs enfants, et elle dit « J'étais venue pour prévenir Helman que la bière est tirée !» Elle s'assit, à l'écart, sur un billot de chêne qui était placé contre le mur de briques, et elle fronça les sourcils. Elle venait de voir Gilbert, qui avait sauté du haut de la pile de bois à terre et qui se préparait à lutter. D'un revers de main, il avait jeté sa veste sur le timon du chariot et il s'avançait jusqu'à deux pas de Victor. « Je vous défie tous !» dit-il. « Bravo, le vieux !» cria une voix. « Il est galant !»« T'es pas de force ! Donne-lui la bonne leçon, Victor ! À bas le Nivernais ! Vive les Wallons !» Une rivalité confuse de race les animait tous. Ils formaient un demi-cercle. Ils tendaient le cou. Plusieurs montraient leurs dents jaunes entre leurs lèvres gercées par l'hiver. « Attention, Victor, il est plus grand que toi. »« Oui, mais il a 30 ans de plus. Ne le quitte pas des yeux, Victor. » Les deux hommes se taisaient comme des duellistes et chacun d'eux cherchait, tâtant du regard le corps de l'autre, la place où il allait jeter ses bras. Mais tandis que le plus petit ployait les jambes et se rasait pour sauter, Gilbert demeurait droit, les pieds un peu écartés seulement, les mains hautes, la poitrine et les flancs non gardés. Victor profita de ce qu'il jugeait être un défaut d'habitude. Il se précipita tête basse contre le Nivernais, l'étreignit au niveau des dernières côtes et, rassemblant toute sa force, il essaya de le renverser, de le surprendre à gauche, à droite, de l'étouffer, de lui faire plier les jarrets. Les muscles de son cou se tressaient sous la peau. Gilbert remuait à peine. On voyait seulement ses joues devenir rouges et sa bouche et sa barbe blonde s'entr'ouvrir à l'appel des poumons qui manquaient d'air. Il laissait s'épuiser son adversaire. Tout à coup, les bras qu'il avait gardés hauts s'abattirent, il les noua autour de Victor Courbet, il le souleva et, d'un coup de rein, se redressant, il fit pirouetter l'homme dont les jambes décrivirent un cercle et s'abattirent sur les épaules et sur le dos du vieux bûcheron. Des cris de plaisir et de colère, mêlés, en tourbillon, enveloppèrent les lutteurs. « Assez ! Il est vaincu ! Non, tu vas le tuer ! Hardi !» Gilbert, pendant qu'on criait encore, ramena ses deux mains sous le corps de son rival et, le saisissant par le dos et par le bas des reins, enfonçant les doigts dans les vêtements, dans la graisse et les muscles, il le souleva encore et le tint à bout de bras. Victor hurlait et se débattait. Tous les hommes s'étaient levés. Hellman, dans le tumulte des applaudissements et des cris, faisait signe. « Assez, lâchez-le !» Gilbert laissa tomber sur le sol le compagnon épouvanté qui se sauva en jurant. « Allons, Gilbert, dit Hellman en riant, c'est gagné. Vous n'y allez pas de main morte. Vous avez donc appris ?»« Dans la forêt, on apprend tout, répondit Gilbert en remettant sa veste. « Eh bien, reprit une voix, il n'embrasse pas la patronne ?»« Ça le regarde, dit Hellman. Venez boire, tous, la bière est tirée. » Les domestiques suivirent le contremaître et, sous la pluie, en groupe serré et sabotant, quittèrent la grange. Les deux derniers jetèrent un regard en arrière. La patronne était restée assise sur le billot de chêne le long du mur de briques. Elle ne riait pas. Ils disparurent. Gilbert Cloquet restait seul avec elle. Il était devenu tout pâle. Il n'osait plus s'approcher. Comme elle ne disait rien et qu'elle le regardait d'un air de reproche et de pitié, il vint cependant timide comme un enfant. La jeune femme avait l'air d'une statue d'église, un peu émue, aussi maternelle. « Embrassez-moi donc, dit-elle, puisque vous avez gagné. Ce n'est pas cela qui est mal. » Il se pencha et la baisa sur la joue, et elle ne le repoussa pas, mais il s'écarta de lui-même. « Monsieur Cloquet, dit-elle, ce qui est mal, c'est la pensée que vous avez dans le cœur. Croyez-vous que je ne l'ai pas vue ?» Il ne répondit pas, mais il devint blanc de visage comme un mort. Elle parlait lentement, les yeux grands ouverts et pleins de bonne justice. « Un homme de 50 ans, un homme qui a une fille de mon âge, une fille mariée comme moi, c'est une honte de me poursuivre. J'ai été trop bonne pour vous dans les commencements. » Elle entendit une voix très basse qui disait « Oui ». Et l'homme s'écarta encore. « Je ne veux pas vous faire renvoyer, vous avez à gagner votre pain, mais il faut que cela cesse. » La voix répondit « Oui, cela va cesser. » Et tout de suite et pour toujours. Pour la première fois, il la regarda bien en face et elle vit que la mort était entrée en effet dans le cœur du bouvier. « Adieu, dit-il. Où allez-vous? Je ne vous demande pas de partir. » Il ne répondit pas. Il s'était détourné et, prenant son chapeau de feutre là où il avait pris sa veste, il se dirigeait du côté de l'est, par où la grange s'ouvrait sur la cour et la cour sur la campagne. Il fut bientôt sous l'averse. Une voix de la ferme cria « Hé, Cloquet, par ici! Tu te trompes de chemin !» Une voix plus proche le rappela. « Restez, mon pauvre Cloquet, je ne vous renvoie pas. J'ai pitié de vous, allez. Seulement, je ne peux pas. » Ni l'une ni l'autre voix n'arrêtèrent ni de ralentir le bouvier. Sa haute silhouette se dessina dans l'ouverture du portail de la ferme. Et Gilbert tourna à gauche, marchant vite, sans rien voir, dans la boue du chemin, sous la pluie qui ne cessait point. Il était près de midi. Quand il fut à plus de 200 mètres du pain fondu, il crut entendre, porté dans l'air mouillé, un cri de femme et le mot « Revenez !» Mais la mort était déjà dans son cœur. Le pauvre marchait sur le chemin désert. Il ne sentait pas l'eau qui ruisselait sur son cou et sur ses mains. Un homme de 50 ans. C'est une honte de me poursuivre. Elle a raison. Je ne vaux pas la peine de vivre. Il ne savait pas où il allait. Il fuyait. Le vent passait par rafales. Elle m'a chassé. Je n'ai plus personne sur la terre. Personne. Quelle vie j'ai eue. La voilà finie. J'ai été pareil aux autres. Je suis un misérable. Pourtant, tu avais mieux commencé, mon pauvre Cloquet. Va-t'en, va-t'en. Il ne faut pas que tu reviennes. C'est une honte de me poursuivre. C'est une honte de me poursuivre. Cloquet, c'est à toi qu'on a dit cela. Soyez tranquille, madame Helmand. On s'en va bien loin. On ne reviendra pas. Il avançait difficilement contre le vent, contre la pluie. La boue retenait ses bottes. Le nuage, comme un rouleau, foulait la terre morte et les maisons closes. Cloquet respirait mal. Il regardait le sol inondé qui fuyait sous lui. Le froid, les ténèbres, la lassitude, la honte, le chagrin de toute une vie, tout cela mêlé formait une folie puissante qui se développait sous l'énorme averse dans la fumée des eaux qui alanguissent le sang. Un vol de bêtes noires, corbeaux, coulis, vanneaux, coula au ras de la terre devant Cloquet qui s'arrêta court. « Laissez-moi, vous autres, ne me touchez pas, je suis déjà assez malheureux. » Les ailes fuyaient dans la bourrasque. Il chercha à reconnaître où il était. Il avait pris, en sortant de la ferme, le chemin qui coupe les champs et qui passe à la pointe du village de Carouble, puis continua sur Quiévrechain. Tout le sang de son corps lui était remonté au visage et sonnait la charge autour de son cerveau. Cloquet, les yeux égarés, considéra les maisons de Carouble, vagues dans la pluie, à sa gauche, et il pensa « Je n'ai qu'à retrouver la route de Valenciennes et je me jetterai sous le tramway. Ça passe assez souvent. Ils ne me reconnaîtront même pas quand je serai mort. » Il hésita. La honte le poussait. L'obscur instinct le retenait. Était-ce des voix qui venaient en remontant le vent du côté du pin fendu? Non. La vaste ferme était effacée, noyée, abolie par la tempête de pluie. Le filet de boue, tordu à travers les champs, n'avait d'autre passant que le bouvier. Cloquet, bien loin, en avant, aperçut une petite lumière. Sans doute la fenêtre, éclairée par le feu, de quelques maisons extrêmes de Quiévrechain. Et cela lui rappela Quiévrin qui est tout proche, et le boucher, son ami. Sa pauvre tête lasse et malade fit effort pour se souvenir d'une date. Qu'avait-il dit, Ourmel? De quel jour avait-il parlé? Était-ce du 17? Un voyage? La mémoire ne répondait plus. Les idées s'embrouillaient. Je ne sais pas. Il ne sera plus là. Je lui ferai tout de même pitié. Et ce fut cette vague espérance, ce demi-souvenir qui empêchèrent Gilbert de tourner par le chemin qui rejoint la route du tramway. Il se relança en avant, trempé, brisé, sans plus penser, ivre de misère. Et dans la tourmente, il atteignit Quiévrechain, traversa le bourg, entra dans Blanc-Misseron, monta la petite pente de Quiévrin. Puis, tout à coup, à bout de force, ayant ouvert la porte de son ami Ourmel, il tomba, tout de son long, dans la salle chaude. 2 heures plus tard, il s'éveillait, dans un lit auprès duquel veillait Ourmel. Le boucher prit la main du pauvre Nivernais et dit « Eh bien, vieux, ça va? Quelle idée vous avez eue de venir par un temps pareil? Vous vous êtes égaré, je parie. » Cloquet avait encore un reste de folie dans le regard. « J'avais cru que je n'étais pas comme les autres, Ourmel. Je suis comme eux. Je n'ai pas de quoi vivre. »« N'ayez pas peur, » répondait le boucher en faisant signe de se taire à son ami. « N'ayez pas peur. Tant qu'il y aura du pain chez moi, vous n'en manquerez pas. Restez tranquille, vous êtes déjà mieux. La femme entrait sur ces mots. Elle ne s'expliquait point ce qui était arrivé. Mais, bien mieux que son mari, elle devinait que la misère n'était là qu'un petit personnage. Elle dit à voix prudente. « Dommage que tu partes demain, Ourmel. Il faudrait le consoler, cet homme-là. C'est le cœur qui est malade. Tu devrais renoncer à aller à faillite. »«
Je ferai mieux. » »«
Quoi donc ?»«
Je l'emmènerai. » »«
Il ne voudra pas. » »« Femme, Gilbert Cloquet est notre ami. Si on pouvait le remettre dans le chemin... »
« Ainsi soit-il, » dit la femme.
Le lendemain, samedi, Gilbert se leva aussi tard que s'il avait trop bu la veille. Il voulut prendre congé de Ourmel, mais celui-ci le retint. Il lui demanda. « Je vais en voyage ce soir, c'est convenu depuis longtemps. Puisque vous dites que je suis votre ami, eh bien, ne nous séparons pas, accompagnez-moi. »
« Où ?»«
À Faillite-Manage, qui n'est pas bien loin de Quiévrain. »
Que ferez-vous là-bas ?
Le boucher hésita un temps à répondre, se mit à rire malgré son inquiétude et dit « Mon brave, nous serons pas mal de camarades belges qui feront la même chose. C'est une partie qu'on recommence tous les ans autant que possible. Vous ne connaissez pas cela, vous autres de la Nièvre, mais c'est justement ce qui vous manque. D'ailleurs, vous ne serez point obligés de faire comme nous. Venez seulement par amitié pour moi. Promettez-le. » Et Gilbert dit oui. Il était las de la vie, il avait peur d'être seul. Et il prit, le soir, avec Ourmel, un train qui les amena d'abord à Mons, puis vers 7 heures à la Louvière. Le temps s'était remis. Ils firent à pied le chemin qui sépare la Louvière de la colline de Faillite-Manage.